Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une histoire de guerre froide, à hauteur d'homme, épique et rocambolesque, l'histoire de Simas Kudirka, un marin lituanien qui tente un passage à l'ouest. Le lundi 24 novembre 1970, le destin de cet opérateur radio lituanien, membre d'équipage d'un navire de pêche soviétique, bascule. À la faveur d'une rencontre bilatérale avec une délégation de pêcheurs américains, il saute à bord du navire états-unien. Un saut qui, espère-t-il, le sauvera de la misère soviétique. Mais il est rattrapé et jugé avant d'être envoyé au goulag, dans l'un de ses camps de travail aux portes de la Sibérie glaciale ou de l'Oural, d'où l'on ressort le plus souvent les pieds devant. L'histoire extraordinaire de cet homme ordinaire nous raconte une autre époque et deux pays. L'URSS est à prison, paranoïaque et totalitaire, et une Amérique tout aussi paranoïaque, mais qui joue le beau rôle, tout en organisant les pires coups tordus partout dans le monde, par l'intermédiaire de la CIA. Entre les deux, des femmes et des hommes du peuple, ballottés par les soubresauts de l'histoire, le destin de Simas Kudirka en est une illustration des plus romanesques. Nos invités aujourd'hui, Catherine Siméon, productrice du film documentaire sur lequel est basé notre récit, intitulé Le Saut. Il sera diffusé le 10 mai sur France 2, donc lundi prochain. Et Anne Georget, présidente du FIPADOC, le festival du film documentaire, partenaire de notre émission du jour. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire, Gaspard Vallu, coordination Christophe Barrère et réalisation Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Le 23 novembre 1970, il est 10h en ce lundi matin lorsque le navire de pêche soviétique Sovetskaya Lidva jette l'ancre au large des côtes de l'île de Martha's Vineyard. Situé face à la ville de New Bedford, sur la côte est américaine, dans la région de Boston, c'est un lieu de villégiature estivale prisé de la jet-set. Les habitants sont plus habitués à y voir naviguer yachts et voiliers que des bateaux de pêche venus du froid soviétique. Le Sovetskaya Lidva, effectivement, n'a rien d'un bateau de plaisance. Il est ce qu'on appelle un mothership, un navire-usine qui récupère la pêche d'autres bateaux et dans lequel on conditionne les poissons destinés à être rapportés en URSS. À bord de cet immense navire de plus de 150 mètres de long, 170 marins venus des différentes républiques soviétiques travaillent comme des forçats. Mais pour ce voyage le long des côtes américaines, les marins ne sont pas seuls à bord. Une délégation du ministère de la Pêche d'Union soviétique est également présente, car elle doit participer à une conférence avec ses homologues américains, comme le racontent les journaux télévisés des États-Unis à la veille de l'événement.
Les soviétiques ne prennent pas assez de précautions en pêchant au large des côtes américaines. Le gouvernement veut mettre fin à ce problème et a organisé une réunion. Les soviétiques ont choisi le lieu de la rencontre.
L'objet des discussions du jour, les méthodes de pêche de la limande jaune. Une question qui peut paraître anecdotique comme ça, mais qui est alors crucial pour les États du Nord-Est américain que l'on appelle communément la Nouvelle-Angleterre. Car ici, la pêche est une industrie centrale. Et la présence massive de navires soviétiques naviguant légalement à moins de 12 000 nautiques des côtes devient problématique. En ce début des années 70, avec la baisse de la tension entre les États-Unis et l'URSS, cette rencontre est un marqueur de ce qu'on appelle à l'époque la détente entre les deux grandes puissances mondiales. La délégation américaine, composée de représentants de l'industrie locale et de membres du gouvernement fédéral, doit arriver à bord du navire des gardes-côtes, le Vigilant, un bateau de 65 mètres de long qui embarque 80 membres d'équipage. Commandé par le réputé commandant Ralph Eustis, le Vigilant s'amarre donc au navire soviétique peu après 10h du matin. Alors que la délégation américaine et le commandant Eustis sont transbordés sur le Sovetskaya Lidva pour l'ouverture de la conférence, les marins des deux pays se regardent avec curiosité. Sur le quatrième pont du navire soviétique, un homme observe la scène. Plus de 40 ans plus tard, il la raconte à la réalisatrice des films Le Saut.
Après qu'ils soient arrivés et qu'ils aient commencé à transférer des hommes, les Américains se sont mis à nous lancer des cigarettes Marlboro, du Coca-Cola, du Pepsi-Cola, des sets, des chapeaux, toutes sortes de choses. Ils nous ont même envoyé des vestes. Quelqu'un avait balancé ses chaussures. Hello, les Russes. Je les aimais bien. J'ai aimé leur sympathie, leur ouverture. Et les Russes aussi se sont détendus. Ils ont envoyé leurs cigarettes, leurs copecs, des chapeaux et d'autres trucs comme ça. Ah, c'était excellent.
L'homme qui relate cette scène improbable s'appelle Simas Koudirka. C'est un opérateur radio âgé de 40 ans, originaire de la petite ville de Griska Boudis, en Lituanie. Comme la plupart des marins à bord de Litva, c'est la première fois qu'il voit les Américains de ses propres yeux. Pour les Soviétiques, comme pour leurs homologues d'ailleurs, l'euphorie est de rigueur et les échanges vont bon train. Et lorsque deux jeunes marins soviétiques récupèrent discrètement des magazines envoyés par un matelot du Vigilant, cette bonne humeur ambiante retombe. Après les avoir glissés sous leur veste, les deux jeunes hommes sont repérés par le commissaire politique présent à bord du Sovietskaya, comme sur chaque navire soviétique. Alors la sanction tombe instantanément. Vous deux, c'est terminé. Plus jamais vous ne prendrez la mer. Sur le pont d'où il observe la scène, Simas Koudirka bouillonne. Lui, comme beaucoup d'autres marins à bord du Sovietskaya, s'est engagé dans la marine pour fuir l'URSS et voir le monde et ses palmiers. Au lieu de cela, il vit et travaille dans ce qu'il appelle une prison flottante, où seuls les hauts gradés russes peuvent débarquer lors d'arrêts à l'étranger. Et du monde, il ne voit que l'océan Atlantique, gris, hostile. Toute révoltante qu'elle soit, cette sanction contre les deux jeunes marins est un événement presque banal sur un navire soviétique. Mais trop, c'est trop. Et c'est un déclic pour Simas. Comme un feu qui s'embrase, à 11h du matin, il prend sa décision.
Ces magazines, quand tu les fais d'une allumette, tout a explosé. Tout ce qui s'était passé m'est revenu en tête. Les fusillades, les cadavres, les interrogatoires. Moi-même, j'avais été battu, interrogé. À ce moment-là, je ne pensais plus à ma femme, à ma maison, à mon travail. Je voulais tout quitter, quitter cette foutue prison flottante, fuir tous ces espions, ces balances et tout ce système.
À quelques mètres en face de lui, Simas Koudirka croise le regard d'un matelot américain accoudé au pont du Vigilant. Dans un angle hésitant et surtout par la force de gestes désespérés, il lui fait comprendre son plan d'évasion. Finot, le matelot part discrètement avertir son supérieur Paul Pakos, le second du commandant Eustis, qui est alors rappelé à bord du garde-côte. Ensemble, ils observent cet homme, petit mais bien bâti, disons aux allures de boxeur poids plume. Avant de retourner sur le Sovietskaya Litva, le commandant Eustis envoie un message au quartier général des gardes-côtes à Boston pour expliquer la situation et surtout demander la marche à suivre. Il est près de midi et la conférence doit durer jusqu'à 16h. Le temps est donc compté. Mais en cette semaine de Thanksgiving, et par la faute de quelques appareils électroniques en mauvais état, les échanges sont longs, compliqués. À Boston, le capitaine Brown, le supérieur de Ralph Eustis, ne parvient pas à joindre les bons interlocuteurs au département d'État, le ministère des Affaires étrangères américain. Il contacte alors l'amiral Ellis, commandant des gardes-côtes américaines. Mais l'officier supérieur est en convalescence chez lui et il n'est pas supposé se positionner sur une telle question. Pourtant, son avis est tranché et il n'hésite pas à le confier au capitaine Brown. Il le racontera plus tard à Algis Roxenas, l'auteur du livre intitulé « Jours de honte ».
Si nous laissons le vigilant être utilisé comme un refuge, si nous l'acceptons à bord, nous n'aurons plus jamais de rencontres constructives avec les soviétiques. Et cet homme est un déserteur, quoi qu'on en dise. Si un de mes hommes avait déserté sur un navire étranger, j'aurais demandé qu'on le ramène. Et si cela avait été refusé, je serais allé le chercher et l'aurais traîné à bord.
Face à cet ordre, en totale opposition avec la traditionnelle politique d'accueil de réfugiés venus de l'Est, le capitaine Brown est perplexe. Mais il considère l'amiral Ellis comme un homme sage. Alors, sans contre-ordre venu de Washington, il s'y tiendra et n'acceptera pas le transfuge à bord du Vigilant. D'ailleurs, sur le navire américain, les officiers ne savent pas si l'homme qu'ils ont en face d'eux est sérieux après tout. S'il s'agissait d'une tentative de déstabilisation de la part de Moscou, assez tordue pour cela. Et puis, quand on sait que plus de la moitié des transfuges reviennent sur leur décision dans les 72 heures, est-ce vraiment sérieux de prendre le risque? De son côté, Simas est sûr de lui, et il continue d'affiner son plan. Il est maintenant 14 heures. Il tente de s'assurer que ses interlocuteurs l'ont bien compris et qu'ils l'accueilleront à bord du Vigilant. Mais pour être certain de son coup, il se dirige vers sa cabine et s'installe à son bureau. Pour le documentaire Le Sceau, il revient sur ce moment.
Cher camarade, je saute du bateau russe et viens vous rejoindre. J'ai expliqué ma situation et j'ai signé Simas. Il ne restait plus beaucoup de temps. Je suis allé voir un ami et lui ai pris un paquet de cigarettes. Je l'ai ouvert et j'ai fourré ma note à l'intérieur. Je suis allé sur le pont et je l'ai jeté comme ça. Un Américain l'a récupéré au sol et il est rentré à l'intérieur pour ne pas l'ouvrir en public.
C'est Paul Pacos, le second du Vigilant, qui récupère le petit mot glissé dans le paquet de cigarettes. Une fois de plus, il fait revenir son capitaine. Cette fois, le doute n'est plus permis. Le marin soviétique va franchir le Rubicon et tenter de rejoindre le navire des gardes-côtes américains. Un second message est donc envoyé à Boston, mais les ordres officiels ne viennent toujours pas. À 16h, la conférence s'achève. La délégation soviétique est invitée à bord du Vigilant pour une visite de courtoisie. À 16h30, Simas Kudirka sait que les minutes sont comptées avant le départ du Sovietskaya Litva. Les soviétiques ne vont pas tarder à rembarquer sur leur navire et ses chances de fuite s'envoleront. Sur le pont principal du Vigilant, Paul Pacos et le marin qui l'accompagne observent Simas Kudirka. Ils espèrent qu'il ne sautera pas. Pourtant, l'opérateur radio est décidé. Alors il s'arrive au bastingage, prend son élan et saisit sa chance.
C'était l'heure de partir. Le Vigilant tanguait. Il se rapprochait, puis s'éloignait. J'ai saisi l'instant, car le temps était précieux. Hop, j'ai sauté. Et voilà, j'y étais. Le traître à la mère patrie qui faisait un bras d'honneur à l'Union soviétique. Le goulag, c'était par là, et la liberté, de l'autre côté.
Un saut de près de 3 mètres qui le fait atterrir sur le pont inférieur du Vigilant, là où sont installés les radeaux de sauvetage. Dans la précipitation, Simas se relève et se dirige en courant vers la timonerie. Dans les escaliers qui mènent au poste de commandement, il croise le capitaine Sovietskaya qui lui demande ce qu'il fait là. L'opérateur radio-lituanien ne se retourne même pas et lui hurle qu'il n'a pas le temps de lui répondre. Le commandant Ralph Ostis le voit alors arriver à bout de souffle. Il le prend par le bras et l'emmène dans les toilettes d'un pont inférieur pour le cacher, en attendant de recevoir les consignes officielles de Boston ou Washington. Mais une fois de plus, les instructions ne viennent pas. Et maintenant il est 18h, cela fait près de 2h que Simas a sauté. Avec la délégation russe à bord du Vigilant qui refuse de quitter le navire sans le fuyard, la situation se tend. À 20h, le poste radio de Sovietskaya Litva intercepte une communication entre le capitaine Brown et le commandant Eustis. Le message de Brown insiste sur le fait que si les soviétiques demandent que leur soit rendu le transfuge, Eustis doit s'exécuter. Mais le commandant du Vigilant espère toujours pouvoir garder le déserteur. Peu après, les soviétiques tentent un coup de bluff et apportent une note au commandant américain dans laquelle ils expliquent que Simas Kudirka s'est enfui avec 3000 roubles volés à bord du navire russe. Un motif probablement légitime, en tout cas à leurs yeux, pour que l'opérateur radio leur soit rendu. Alors, à contre-cœur. Si l'on en croit Robert Breeze, un représentant américain de l'industrie de la pêche, présent avec la délégation américaine à bord du Vigilant, Ralph Eustis ordonne que le transfuge retourne d'où il vient.
Robert Breezy, lui-même transfuge laiton en 1944, décrit ce qu'il s'était passé le soir de Thanksgiving à bord du Vigilant.
Le capitaine était triste à un moment, il a pleuré. Il m'a dit, Bob, je sais que cet homme pourrait être puni de mort, mais je dois obéir aux ordres de mon commandant.
Simas Kudirka est rattrapé, battu si violemment. Il perd connaissance, entravé par une corde qui lie ses jambes à son cou. Il est finalement transporté à bord du Sovietskaya Litva comme un animal en fond de cale, sous les yeux des officiers américains choqués, mais résignés. Ils savent que le pauvre homme part vers l'enfer.
Я знаю, мое дерево не проживет и недели. Я знаю. Мое дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это мой друг. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я знаю, мое дерево завтра может сломать школьник. Я знаю, мое дерево скоро оставит меня. Но пока оно есть, я всегда рядом с ним. Мне с ним радостно, мне с ним больно. Мне кажется, что это мой мир. Мне кажется, что это мой сын. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево.
Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Quelques semaines après sa tentative de passage à l'ouest, Simas Kudirka est de retour en Lituanie. Mais, comme le redoutaient les officiels américains, il ne retourne pas dans sa ville de Grigskabudis. Non, à son débarquement du Sovietskaya Litva, les agents russes l'attendent. Il est emmené dans l'une des 7 prisons du KGB à Vilnius, où il doit être interrogé et incarcéré dans l'attente de son procès. Il passe ainsi plusieurs mois dans la cellule numéro 13, aux côtés d'autres dissidents anticommunistes lituaniens. Pour le Kremlin, l'affaire est importante. Le KGB dépêche à Vilnius plusieurs interrogateurs chevronnés du bureau central de Moscou. Durant des semaines, ils tentent de le rééduquer, comme on dit alors. Ils l'incitent à condamner publiquement la bourgeoisie nationaliste lituanienne qui l'a poussé à fuir. Mais rien n'y fait. Simas Kudirka reste droit dans ses bottes. Il refuse de coopérer. Le résultat est évidemment sans appel. Il est envoyé 6 mois à l'isolement. Les officiers soviétiques y voient un bon moyen de le faire réfléchir avant de comparaître devant ses juges. Son procès s'ouvre le 17 mai devant la Cour suprême de la République socialiste de Lituanie à Vilnius. On lui colle un avocat commis d'office, mais il refuse et il s'en explique. Une parole retrouvée quelques années plus tard lors de la déclassification des archives.
Si cet avocat est un honnête homme, et me défend selon sa propre conscience, cela ne pourra que lui porter préjudice, et je ne le souhaite pas. En revanche, s'il n'est là que pour être un second procureur, comme c'est souvent le cas dans ces procès politiques en Lituanie, je n'y vois aucune utilité. Monsieur le procureur fera très bien son travail tout seul. Je préfère donc me défendre moi-même.
Cette déclaration préalable donne le ton du procès. Simas Kudirka n'a plus rien à perdre. Alors il se lance dans une bataille pour sauver, non pas sa vie, car il ne se fait aucune illusion sur ce point, mais son honneur. Le procès doit durer 4 jours. 4 jours durant lesquels les protagonistes présents à bord du navire soviétique viennent s'exprimer tour à tour. Du commissaire politique au commandement jusqu'au marin témoin visuel, tous s'acharnent sur Simas Kudirka. C'est un lynchage à la soviétique. Quand le commissaire politique lui demande ce qu'il espérait, alors qu'il ne pouvait prétendre au mieux qu'à devenir laveur de toilettes aux États-Unis, Simas répond avec aplomb que le travail n'est pas important et qu'il n'y a pas de sous-métier. Et que s'il l'avait fait, cela aurait été avec une conscience claire. Il conclut « De toute façon, ici, en URSS, il n'y a que la carte du parti qui se permette de se nourrir convenablement ». Au 3e jour de son procès, Simas Kudirka est invité à prendre la parole pour sa plaidoirie. Il se lève et parle plus de 4 heures. Il revient d'abord sur l'histoire de son pays. Depuis 1940, la Lituanie n'est plus libre. D'abord envahie par les troupes de l'armée rouge, puis par les forces d'Hitler, il fustige Staline, prétendu libérateur de son peuple. Condensé.
Sous le nazisme, Vilnius ne comptait que 2 prisons. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas moins de 7 centres de détention où sont enfermés plus de 20 000 de ceux que vous considérez comme vos opposants. Et que sont devenus ces milliers de Lituaniens que vous avez envoyés dans le froid sibérien en raison d'une prétendue appartenance à la bourgeoisie révolutionnaire ? Et quant aux Américains du Vigilant, je ne considère pas qu'ils m'ont trahi. Ils m'ont donné des vêtements chauds et à manger, quand les hommes du Sovetskaya, eux, ne m'ont donné que des coups jusqu'à ce que je m'évanouisse.
Et lorsque le président du tribunal lui demande s'il a quelque chose à ajouter, Simas déclare
« Pour conclure, je souhaite faire une ultime demande au gouvernement du RSS et sa Cour suprême. Qu'elle rende sa liberté à la Lituanie et qu'elle ne soit plus occupée par l'armée soviétique. Que mon pays puisse disposer d'un gouvernement libre et d'une administration qui ne dépende pas de Moscou. Que mon pays dispose d'une justice libre et d'un système électoral démocratique. Que l'on y parle le lituanien et non le russe. »
Le 20 mai 1971, la Cour suprême de Vilnius rend son verdict. Simas Kudirka est reconnu coupable et condamné à 10 ans de goulag, assorti d'une confiscation de tous ses biens matériels. Une vraie surprise pour le marin lituanien qui se voyait déjà devant le peloton d'exécution. Dès le lendemain, il est envoyé dans le camp de travail de Potma, dans la province de Mordovie, à 250 km au sud-est de Moscou. Mais il ne sait pas que de l'autre côté de l'Atlantique, son histoire agite les foules et son destin est suivi de près par des millions d'Américains.
Release of Simon Kudirka and his family to free world.
Dès le mardi 24 novembre, au lendemain de la tentative d'évasion des marins lituaniens, la presse américaine s'était emparée de l'histoire. Alerté par Robert Breeze, le membre de la délégation américaine présent sur le navire soviétique, lui-même immigré letton, le quotidien local New Bedford Times publie en une la photo que Simas Kudirka avait réussi à glisser aux officiers américains avant de se faire prendre par les marins soviétiques. Rapidement, l'information est reprise par tous les médias nationaux. À Boston, Washington, New York ou encore Philadelphie, la population se mobilise et les manifestations s'enchaînent pour réclamer la libération de Simas Kudirka. Le sort de ce transfuge refoulé passionne les foules autant qu'il alarme le pouvoir en place. Dans les jours qui suivent l'événement, l'administration américaine ordonne une enquête pour mettre au jour les manquements dans la chaîne de commandement. Ralph Estes, le commandant du Vigilant, le capitaine Brown, son supérieur, et l'amiral Ellis sont tous les 3 reconnus coupables de défaillance. Placardisés ou condamnés à la retraite forcée, ils abandonnent leur carrière militaire. Au sommet de l'État également, l'histoire inquiète. Le président Nixon, englué dans la guerre du Vietnam, se sent obligé de réagir lors d'une conférence de presse qu'il donne à la Maison-Blanche le 10 décembre 1970, soit quelques jours à peine après le départ des Sovietskaya Litva des côtes américaines.
Quel est votre point de vue sur l'affaire du transfuge, ce Lituanien battu chez les gardes-côtes?
Comme je l'ai déjà dit, je suis choqué en tant qu'Américain que cela ait pu se produire. Je regrette que les gardes-côtes et le ministère des Affaires étrangères n'aient pas informé la Maison-Blanche et ne m'aient pas prévenu de cette affaire. Je peux vous assurer que cela ne se reproduira jamais. Depuis 190 ans, les États-Unis sont fiers d'offrir une nouvelle chance aux réfugiés et de garantir leur sécurité, et nous allons perpétuer cette tradition.
Mais malgré les manifestations populaires et les prises de positions officielles, Sima Skoudirka reste enfermé dans son camp de travail de Potma, condamné à travailler comme un esclave dans le froid inhumain de l'Oural. Le temps passe, normal pour nous, épouvantable pour lui. Seuls quelques irréductibles militants issus de la communauté lituano-américaine continuent de se mobiliser. Mais c'est suffisant. La preuve, son salut viendra de deux femmes de sa communauté. En août 1973, Gradzina Pigol et Daïva Kezis, deux jeunes mères de famille qui suivent de très près cette histoire, reçoivent une lettre envoyée de Griska Boudis en Lituanie. Dans ce courrier, la tante de Gradzina témoigne de sa rencontre au marché avec Maria Kudirka, la mère de Simas.
Elles ont commencé à se parler et pendant la conversation, elles se sont rendues compte qu'elles étaient toutes les deux nées aux États-Unis. Maria Kudirka se rappelait aussi du nom du prêtre qui l'avait baptisée, ainsi que de l'endroit où se trouvait l'église.
Mais tout ça, c'était en 1911 ou en 1918. Ça remonte à très loin.
Ça remonte peut-être à très loin. Mais grâce à cette lettre, les deux jeunes femmes parviennent à recouper les informations. Elles arrivent à obtenir le certificat de naissance de Maria Kudirka. Elle est bel et bien américaine, ce qui veut dire que née d'un père inconnu, Simas peut donc lui aussi prétendre devenir citoyen des États-Unis. Depuis les États-Unis, justement, et grâce à des coups de fil réguliers, les deux jeunes femmes accompagnent Maria Kudirka dans ses démarches en Lituanie pour faire reconnaître sa double nationalité. Durant près de 2 ans, la vieille dame remue ciel et terre pour faire reconnaître son droit et celui de son fils. Une bataille qui l'amène jusqu'à Moscou, où elle et ses accompagnateurs subissent la répression du régime soviétique. De l'autre côté de l'Atlantique, le député américain Robert Hahn est alerté par Gradzina et Daïva. Sa circonscription compte près de 50 000 immigrés lituaniens. C'est peut-être pour cela qu'il s'empare de l'histoire de Simas. Toujours est-il qu'il apporte une aide précieuse. Et à la faveur d'un calendrier politique favorable, le nouveau président américain Gerald Ford obtient au mois d'août 1974 un accord avec Léonid Brejnev pour la libération de celui qui avait tenté en novembre 1970 de passer à l'Ouest. C'est ainsi que Simas est libéré de son camp de travail de Potma. Une nouvelle à laquelle il ne veut pas croire et dont il se souvient avec émotion dans le documentaire Le Sceau.
La porte s'est ouverte et ils m'ont dit « Kudirka, fais tes affaires. De quoi as-tu rêvé la nuit dernière ?» J'ai répondu « Mes rêves sont le reflet de ce palace. » Il m'a répondu « Arrête de faire le malin, j'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Tu as essayé de fuir pour les États-Unis, maintenant tu vas y aller en tant qu'homme libre. » Mon Dieu. Mais attendez, j'ai dit. Ça fait plus de 3 ans que vous me montrez toute la grâce de vos prisons. Et maintenant, vous me dites que je suis libre.
Le 6 novembre 1974, il atterrit aux États-Unis accompagné de sa mère, sa femme et ses 2 enfants. Son arrivée attire les foules et les caméras de tout le pays. Alors, avec l'enthousiasme qui le caractérise et la joie qui le transporte, Simas Kudirka raconte sa première journée aux États-Unis.
What did you do today, sir?
We in shops, American shops. It is wonderful, wonderful shop.
What did you see that you liked most?
I don't understand.
En Amérique, l'ancien marin devient gardien d'immeubles dans le Bronx. Il parcourt les États-Unis, mais aussi le monde, pour parler de son pays et faire connaître le sort des milliers de ses compatriotes qui vivent encore sous le joug de Moscou. Il se rend jusqu'en France pour parler de sa vie et du film qui lui est consacré aux États-Unis. Mais sa nouvelle vie à l'Ouest le déboussole. Il découvre l'opulence d'un monde à l'opposé de ce qu'il connaissait jusque-là et qui le trouble. Il l'explique, il le dit pourquoi, à un journaliste américain venu l'interroger chez lui au début des années 80.
Vous vivez dans un quartier peuplé de New York, les rues sont étroites, il y a des ordures dans la rue, c'est sale, et vous êtes un étranger.
Ce sont nos ordures. Il y a tellement de choses dedans.
Dans les ordures ?
Oui. Regardez, mon poste radio vient des ordures. La télé aussi. En Russie, j'aurais dû travailler un an pour avoir cette télé.
Que voulez-vous dire ? Vous prenez tout dans la rue ?
Oui. Regardez, c'est incroyable.
Les Américains gaspillent trop.
Les Américains sont tellement riches et n'apprécient pas ce qu'ils possèdent. Quand j'entends de la belle musique, je pleure. Alors, pourquoi les gens se droguent en Amérique ? En Russie, oui, les gens boivent parce que les conditions sont dures. C'est l'enfer de Dante, voire pire. Mais en Amérique...
En 2003, Kudirka et sa femme laissent leurs enfants aux États-Unis et rentrent vivre à Gricadoubis. Réalisant le rêve que Simas avait exprimé lors de son procès en 1971, vivre dans une Lituanie libérée de l'emprise de Moscou et de toute autre puissance étrangère.
Let's go.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'histoire de Simas Kudirka dans Affaires sensibles, dont nous allons parler avec nos deux invités. Nous avons deux invités aujourd'hui. Catherine Siméon, productrice du film documentaire sur lequel est basé ce récit. Film documentaire intitulé Le Sceau. Je rappelle qu'il sera diffusé le 10 mai, donc lundi, sur France 2. Vous êtes en duplex chez France Bleu Bourgogne, dans les studios de notre radio Bleu Bourgogne. Catherine Siméon, vous m'entendez déjà?
Oui, parfait, bonjour.
Et Anne Georgé, présidente du FIPADOC, le festival du film documentaire, partenaire de notre émission du jour. Vous êtes au téléphone, vous m'entendez?
Oui, tout à fait.
On va faire les choses simplement. Comme on ne se voit pas, je vais poser une question à l'une ou l'autre. Si la deuxième personne qui ne répond pas veut ajouter quelque chose, vous passez par la régie, vous dites je veux parler et je vous donne la parole. Hein, on va faire comme ça, le plus simplement possible. Première question qu'on se pose, d'abord dans cette histoire, c'est le fait que Sima soit reparti. Il a un rêve qui est le rêve de sa vie et il découvre une réalité qui ne correspond pas tout à fait à ce rêve. Et ça, c'est un point fort de l'histoire. Vous avez pu comprendre pourquoi il repart, quelles sont ses motivations, pourquoi ça se termine comme ça. Qui veut répondre? Catherine Siméon, peut-être, productrice du film. Allez-y.
Oui. Alors, c'est effectivement déployé dans le film. Il y a plusieurs raisons qui explique son choix de retour. Alors, il y a un certain désenchantement, et évidemment un attachement premier à ses racines. Hein. Et la situation, comme vous l'avez exposé, elle change dans les années 90, à l'effondrement de l'URSS. Il a la possibilité de retourner en Lituanie, dans un pays libre, cette fois.
Qu'est-ce qui vous a poussé à produire ce film, Catherine Siméon, là, pour cette histoire, parce qu'elle est passionnante en soi. Elle est passionnante aussi parce que elle est plus que des histoires d'espions dans la guerre froide. Il y a beaucoup d'histoires d'espions, mais enfin, c'est leur métier. Là où ça devient passionnant, c'est quand on a des gens du peuple, les peuples qui sont embarqués dans des soubresauts de l'histoire, qui les dépassent complètement et qui leur fait une vie incroyable, voire romanesque. Ça a été une motivation pour vous?
Complètement. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer Guy Edreux assez tôt, en fait, au moment où elle commençait à travailler sur ce projet. On était toutes deux, en fait, en formation à Eurodoc, justement, pour la conduite de projets à l'international. Et elle avait déployé un peu l'histoire de cet homme qui était fascinant. C'est-à-dire, il était plein de contradictions. Alors, en soi, humainement, super attachant, quelque chose de désarmant aussi, mais voilà, son geste qui était à la fois héroïque et égoïste, beau, mais complètement désespéré, un homme simple, mais face à deux superpuissances, voilà, c'était fascinant.
Continuez, je vous en prie, allez-y.
C'est qu'elle nous déployait quelques éléments de ses recherches qui étaient assez hallucinantes. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, aujourd'hui, les jeunes Américains, ils étudient cette partie de l'histoire de la guerre froide dans leur manuel scolaire, à travers l'histoire de Simas.
Ah oui,
c'est fou.
Ah c'est,
oui.
C'est intéressant, effectivement. Et c'est bien d'avoir choisi une histoire d'un monsieur tout le monde, finalement. C'est un bon choix.
Exactement.
Et aussi le travail, là encore, ce sont des anonymes, enfin, ce sont pas des représentantes du pouvoir ou d'une institution, c'est deux femmes qui se sont battues et qui ont été le salut de Simas. Ça aussi, c'est touchant.
Oui, on peut dire c'est les étincelles qui ont fait que la mobilisation a vraiment pris. Elles se sont complètement investies, jusqu'à aller chercher justement l'acte de naissance de la mère de Simas dans la petite église, appeler la Lituanie à une période où c'était pas si simple de communiquer avec la Lituanie, dans ce contexte politique justement où pendant un temps on les a pris pour elles-mêmes pour des espionnes quoi. Donc c'était une très très forte mobilisation alors qu'elles-mêmes voilà c'était des jeunes mères, c'était des gens comme vous et moi et qui n'ont pas lâché en fait là effectivement depuis son arrestation, la divulgation dans la presse et sa libération il y a 4 ans qui s'est passé, donc il faut voilà, faut tenir pendant ces 4 ans.
Anne Georget, je rappelle, vous êtes présidente du FIPADOC et partenaire de notre émission du jour, on va dire Festival du film documentaire. Quel regard vous portez sur ce film-là? Pourquoi il a attiré l'attention du festival, de votre attention? Pour toutes les raisons qu'on a développées, j'imagine.
Ce film-là, pour tout dire, ça fait plus de 2 ans qu'on est sur cette piste, puisque la réalisatrice a fait preuve d'un perfectionnisme et que, pour tout dire, on l'avait déjà sélectionné l'année dernière, on le trouvait vraiment bien. Et puis, au moment où on a annoncé au producteur, donc à Catherine Simon, que c'était super, le film était sélectionné, ils ont dit, non, en fait, on va le reprendre, on n'est pas tout à fait content de nous, et on était assez sidérés. Quand on l'a revu cette année, on a dit, vraiment, chapeau bas, parce que c'était évidemment très bien l'année dernière, mais là, c'est le récit a énormément gagné. Et là, on vous dit la joie de vous annoncer que le FIPADOC aura lieu en salle à Biarritz du 12 au 17 juin. Et je pense que ce film sur grand écran dans les salles à Biarritz va vraiment rencontrer un grand succès, parce que c'est effectivement à hauteur d'homme, un petit bonhomme absolument incroyable de justesse, de véracité, d'honnêteté vis-à-vis de lui-même et de ses contradictions, de ses choix qu'il peut juger pas forcément heureux. Il est tout à la justesse de ses valeurs, en fait. Et il a jamais transigé avec ça, donc ça fait une histoire totalement rocambolesque. La petite dans la grande, moi j'adore.
Mais oui, c'est ça qui est beau, c'est la petite dans la grande, voilà.
Et que la fiction peinerait beaucoup à inventer.
le fameux principe selon lequel parfois le réel a plus de talent que la fiction. Bon, ça nous arrange, cela dit. Donc, FIPADOC, redites-moi la bonne nouvelle, là. Du 12 au 17 juin, redites-moi ça.
Oui, 12 au 17 juin en salle. On attend ça, bien sûr, depuis 6 mois, puisque le festival, normalement, a lieu en janvier. Chaque mois, on s'est tenu prêt pour qu'on puisse répondre présent, comme on l'avait promis à notre public du Pays Basque. Et on a attendu, et avec l'aide de tous nos partenaires qui ont voulu faire preuve de patience et de solidarité, ils nous ont pas lâchés. Et bien, avec Christine Cantu, la déléguée générale, on a appris hier que c'était bon, que du 12 au 17, on allait pouvoir montrer tous les films de la sélection, plus de 150 films au public, et ça nous rend immensément heureux, parce qu'un festival c'est ça en fait, c'est un festival, il y a fête, depuis un an on manque singulièrement d'occasion de faire la fête, il ne suffit pas de faire les foufous, bien sûr que tout ça se fait dans un cadre réglementaire tout à fait strict, mais pouvoir recréer du lien, et encore une fois les zooms, les choses à distance ont beaucoup abîmé les liens entre tout le monde, et le documentaire, déjà par essence, on le sait, quand il va en salle, derrière il y a toujours des conversations absolument passionnantes, et nous on organise cette rencontre entre les auteurs et le public, et c'est toujours extraordinaire, chacun y voit à hauteur de son expérience un petit quelque chose qui lui fait plus écho qu'un autre, et en général les discussions sont passionnantes, donc je me délecte à l'idée que tout ça va pouvoir avoir lieu dans très peu de temps.
Ah oui, ça fait plaisir. Pas trop contraignant, quelles seront les règles?
Écoutez, on attend les derniers décrets d'application. Mm-hmm. On se pliera bien évidemment à tout ce à quoi on doit se plier. Je sais que le ministère a pris des tas de précautions nécessaires, évidemment. Mais voilà, le monde du cinéma, le monde des salles attend tout ça avec grande impatience. Et il est grand temps de se nourrir à nouveau avec des belles histoires.
Oh que oui! C'est une bonne nouvelle. Mesdames, on se retrouve dans 3 minutes où on va écouter Joe Dassin. Il y a qui nous chante une chanson de circonstance. Je ne donne même pas le titre, vous la connaissez tellement.
Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés. Car elles m'attendent depuis que je suis né. L'Amérique. J'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les
trains, toutes les sirènes de bateaux vont chanter sans fond la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand, sans un sou, mais plus riche qu'avant, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau vont chanter sans fin la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique.
Voilà, je ne vous ai pas donné le titre, parce que Jonas l'a répété 10 fois. L'Amérique faisait donc rêver Sima, s'il a réussi à y aller, dans des conditions dangereuses aussi. C'est pas que rocambolesque, il a quand même mis sa vie en danger. Et puis il est revenu. Catherine Siméon, quelle résonance y a-t-il en France pour une histoire lituano-américaine qui remonte à quelques années quand même, quelques décennies. Je suppose que si vous avez produit ce documentaire, c'est que vous êtes certaine, et vous avez probablement raison, que ça intéresse encore. Mais quels sont les ingrédients qui font que ça intéresse et que ça fascine, ce genre d'histoire?
Je pense que, et je pense qu'on ne s'est pas trompé, on a suivi nos intuitions et on ne s'est pas trompé, puisque le projet, effectivement, enfin c'est un honneur pour nous d'avoir été sélectionnés au FIPA, mais ça confirme, c'est... Voilà, un pari réussi, c'est que derrière ces faits, justement, et ce flot de souvenirs sur la guerre froide, il y a des choses qui fait résonance encore aujourd'hui sur la question de la liberté, de l'accueil des réfugiés, de l'immigration, qui en plus était relativement tendue au moment où on a commencé le projet, et c'est tendu d'autant plus quand Trump est arrivé, bien sûr, sur le sol américain. Mais indépendamment de ça, au-delà des frontières de l'Amérique, c'était un peu partout, en fait, que la question elle se posait, quoi, de l'immigration, de la liberté, qu'est-ce qu'on y met, les racines
et puis les résonances, etc. Quoi, vous avez eu raison de parler des résonances, voilà, tellement importantes.
Cette question de la mobilisation, justement, de gens de peu pour un homme, un combat, et qui derrière ce combat, en fait, œuvre même pour leur propre liberté, comme le souligne très bien Kissinger, c'était vraiment, voilà, ça nous semblait essentiel encore et encore d'actualité aujourd'hui. C'est même plus qu'important à rappeler à tout à chacun.
Puisque cette émission, on l'aura compris, est un hommage au documentaire, hein, dans sa définition globale, qu'il soit de radio, de télé, à la démarche documentaire, quelles ont été les difficultés, ce qu'il y en a eu pour retrouver des témoins, la parole des témoins, ou est-ce que ça a été relativement aisé? Est-ce que 40 ans après, les gens ont envie de parler? Apparemment oui, ça les soulage. Comment ça s'est passé?
Oui, mais ça a été long quand même. Ça a été des années de recherche. Il y a eu autant de hasards dans le destin de Simas qu'il y en a eu sur cette production, mais plutôt des hasards heureux, hein. Voilà, de retrouver, d'apprendre que le Vigilant est encore en mer, mais qu'il va être retiré et qu'on ait la possibilité de pouvoir filmer sur ce bateau, c'était énorme. Les recherches d'archives, ça a pris un temps fou. Et puis après, il y a eu cette, et ça m'a moi aidée pour m'engager fermement sur le projet, parce qu'effectivement la question de la territorialisation, elle était quand même un peu compliquée pour moi pour embarquer les diffuseurs français à mes côtés, mais c'était les lettres, en fait, qu'au cours de sa recherche Guédreux a retrouvées. Oui. Auprès d'une des témoins d'Aïva, une des deux femmes justement, qui a pu remettre à Simas des lettres qu'il n'avait encore jamais découvertes. De plein d'enfants qui lui avaient écrit en fait suite à la diffusion de... C'était des enfants qui aujourd'hui ont une cinquantaine d'années. Qui avait écrit à Simas parce qu'il voyait dans le geste de Simas, dans l'acte de Simas, un symbole juste incroyable pour eux qui parfois étaient issus de l'immigration. Donc c'était un symbole très fort. Ils le voyaient vraiment comme un Superman, quoi, hein, clairement. Et on a retrouvé ces lettres et bon, ça a été long aussi, hein, mais il a fallu retrouver la trace de ces gens et on en a retrouvé certains et dont l'histoire de Simas avait clairement imprégné la vie. Donc c'était énorme, quoi.
Quel est le format exact du documentaire ?
Il fait une 80 minutes.
Voilà, 80 minutes.
Voilà.
Bon. Anne Georgé, vous avez dit, je crois, que le documentaire, c'est l'anti-Twitter. Alors, je vais vous demander une explication, même si ça paraît presque évident, hein, comme ça, la réponse est quasiment dans la phrase et dans la question, mais tout de même.
Alors, sur un film comme celui-ci, je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications de texte, le nombre de nez pour le faire, la complexité du récit, et pour poursuivre ce que disait Catherine, par rapport au comment faire exister quelque chose qui semble loin de la réalité des Français, par exemple, ben je crois qu'il faut aussi se dire que il y a un talent dans la narration, et que c'est un vrai film au sens où on va au cinéma pour voir un film, et
un film avec un scénario, une histoire. Georges, je crois que nous avons un vrai problème de liaison téléphonique. Vous êtes avec un portable ?
Ah oui.
Voilà, ne bougez pas, surtout. Ne bougez pas la tête, on vous entend bien, là.
Voilà. Ok, je
vous laisse continuer votre phrase. Je crois que je vous ai interrompu.
Oui, je disais que tout est aussi dans le talent du récit, parce que thèmes peuvent être tout à fait passionnants. Si le récit n'est pas tout à fait à la hauteur et qu'il ne vous embarque pas, nous, dans le festival, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à des histoires qui nous font décoller absolument. On regarde, le film s'arrête et on se dit, ah, c'est déjà fini, mais c'est incroyable, on a fait un voyage littéralement extraordinaire, on a rencontré une personne littéralement extraordinaire. Et ça, c'est vraiment... Le festival, il est là pour mettre en avant ces histoires-là. Donc, ce sont souvent des histoires qui, même si elles se passent loin de notre quotidien, elles racontent quelque chose d'universel.
Catherine Siméon, vous... vous êtes d'accord, j'imagine, l'écriture est très importante dans un documentaire, et le montage est une écriture.
Tout à fait, hein, mais d'ailleurs, ça fait tellement plaisir d'entendre Anne-Georges parler de notre film, et on s'excuse encore effectivement de l'avoir retiré, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, l'histoire à la fois était complexe, et arriver à trouver l'équilibre entre une histoire complexe, et les thèmes vraiment qui importaient à Guédreux d'être présent dans le film pour dire de l'universalité justement de cette histoire, c'était un vrai travail de dentelle. Et donc à un moment donné, on a poussé, et on a retiré le film, et pour le meilleur, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, elle a vraiment atteint le but qu'elle s'était fixé, de pouvoir, à travers cette histoire, parler de thèmes qui aujourd'hui sont encore d'actualité. Et c'est vrai, c'est une écriture au départ du film, à travers des faits, mais aussi c'est organique, bien sûr, parce qu'on est accroché à une réalité, et il y a encore cette deuxième écriture au montage, oui.
Et oui, qui donne aussi le rythme, et qui donne du sens aussi, hein. Le montage est aussi là pour donner du sens.
Voilà,
bien.
Voilà.
Mesdames, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est la fin. On aura bien
comme beaucoup trop court.
Oui, comme Yann Georgé. Ah, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Bon.
Alors,
oui. Du 12 au 17, on a bien noté. Hein,
regardez bien à la télévision lundi et revenez le voir en salle pour ceux qui ne seront pas le Biarritz.
Exactement, j'ai pris mon billet pour Biarritz, voiture 1, place 66, deuxième étage. À bientôt, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Simas Kudirka, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Attaché de production, Rebecca Denante, coordination, Christophe Barrère, lecture, Philippe Pierrat, réalisation, Marion Lelay, Coyen Nguyen et Benjamin Riquet.